Mes frères bien-aimés, nous n'avons pas encore quitté les tables de Bethléem et cela nous fait le plus grand bien, car il est bon pour nous de contempler le Sauveur sur la paille. Et oui, voilà où se retrouve la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, sur la paille. Certes, entouré d'une tendresse fabuleuse, mais tout de même dans un logement de fortune, dormant, comme vous le savez, dans une pauvre mangeoire. Face à cette situation plus que surprenante, Dieu naissant dans une étable, la Sainte Vierge, pour sa part, a dû être très inquiète, aussi inquiète qu'elle était délicate. Et elle devait se demander surtout si les gestes qu'elle posait étaient les bons. Emmailloter Dieu avec les linges de tout le monde, le coucher dans un berceau de guingois, est-ce que tout cela convenait ? Voici alors que Dieu, notre Père, va tout de suite donner sa réponse en envoyant les bergers qui déboulent dans la crèche avec leurs œufs, leur lait et surtout leur foi. Et ce sont eux qui vont rassurer Marie et combler de joie son cœur en lui annonçant que l'ange qui leur était apparu avait bien précisé qu'ils allaient trouver dans une étable un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Vous voyez comme Marie a été tout de suite rassurée. Elle avait posé les bons gestes. Ah, mes frères, que le bon Dieu nous parle de multiples manières. Nous ne sommes pas assez attentifs à sa voix, qui retentit pourtant tout au long du jour et de la nuit, aux oreilles et aux yeux de ceux qui savent entendre et voir. Faisons attention, mes frères, Dieu parle. À nous de guetter sa volonté et de chercher à la comprendre. La Sainte Vierge est donc désormais tranquille, elle a fait ce qu'il fallait. Et Joseph ne regrette pas non plus d'avoir choisi d'entrer dans cette étable et d'avoir tout de suite imaginé que la mangeoire pouvait très bien faire l'affaire et que les animaux joueraient aussi leur rôle de chauffage central. Quant à la ville de Jérusalem, mes frères, elle est en émoi, car une caravane vient d'en franchir le mur d'enceinte et elle se dirige à présent vers le palais royal sous les yeux effarés de la population qui n'a jamais vu des hommes aussi étranges que les mages. Leur physionomie est inconnue et leurs vêtements de la tête aux pieds, des turbans aux babouches, étonnent et surprennent. Quant à leur langue, étrangère au possible, elle ajoute encore au mystère. Ces mages, mes frères, en devenant des santons bien disposés et placés sagement en ligne dans nos crèches près de leurs chameaux, frôlent la légende, il faut bien le dire, entrent dans le mythe, perdent de leur réalisme et pourtant, un jour de notre histoire, pour de vrai, comme disent les enfants, ces hommes sont arrivés à Jérusalem, éreintés par un long voyage qui dura sans doute plusieurs mois. Certes, ils n'étaient peut-être pas trois. La tradition a imposé ce nombre à l'allure idéale, mais l'Évangile n'en dit rien. Ce nombre parfait a sans doute été retenu pour laisser entrevoir que ces hommes venus de loin représentaient, comme on l'a dit mille fois, toutes les nations de la terre. Saint Matthieu se contente de les désigner sans en préciser le nombre, en employant le terme générique de « mages ». Et il nous dit leur provenance, l'Orient, c'est-à-dire des pays situés au-delà du Jourdain et de la mer Morte, la Médie, la Perse, l'Arabie, devrions-nous dire. Quant à leur profession, si je puis m'exprimer ainsi, tout laisse croire qu'ils étaient versés dans la connaissance des mathématiques, de l'astrologie et de diverses sciences occultes. Saint Jérôme ira même jusqu'à employer, pour définir les mages, le terme de magicien, dont il dit d'ailleurs qu'il a la même signification. Il n'y a malgré tout, précisons-le, dans le terme de mage, rien de péjoratif. Ce sont au fond des savants, et selon la pensée du grand philosophe juif du 1er siècle, Philon d'Alexandrie, ces mages ne font rien d'autre que scruter les secrets de la nature pour parvenir à la connaissance de la vérité. Et ça tombe bien pour eux, mes frères, puisque c'est un astre, une étoile mystérieuse, qui va les conduire jusqu'à Jérusalem. Cette étoile, mes frères, ils l'ont vue, jusqu'à en être éblouis, émerveillés, surpris, littéralement confondus, en la voyant apparaître et briller dans le firmament. Notre galaxie, mes frères, la Voie lactée, nous le savons bien, contient plusieurs centaines de milliards d'étoiles, et à l'œil nu, on peut en observer de nombreuses, scintillant sur la toile de la nuit, manifestant magnifiquement, il faut bien le reconnaître, tout à la fois la complexité et la beauté de la création qui suppose, redisons-le sans crainte, puisque nous sommes entre nous, nous sommes en famille, une intelligence suprême, un ordonnateur absolu qui maintienne en un équilibre immuable et parfait notre univers à l'allure infinie dont nous ne connaissons pas le quart du quart. C'est dire, mes frères, que l'inventeur des planètes, des étoiles, des galaxies, ce n'est pas l'homme. Pour une fois, nous sommes ensemble, je l'espère, d'accord sur ce point. Ce n'est pas non plus la nature qui, par nature, a connu un commencement et qui est donc soumise à des lois intelligentes qui la régissent. Faut-il le redire pour que l'homme reste à sa place ? Aucun ordinateur ne fait lever le soleil sur le monde et aucun disjoncteur ne l'éteint pour que la nuit descende. Non, mes frères, il faut donc supposer une puissance qui ordonne toutes choses depuis les commencements. Et cette puissance, c'est cet enfant merveilleux qui aujourd'hui est couché sur la paille et qui, en allumant une étoile dans la voûte céleste, appelle les hommes des quatre coins du monde à le reconnaître comme Dieu. Mes frères bien-aimés, depuis le premier homme, l'habitude a été prise de regarder vers le ciel pour s'émerveiller de la création qui nous dépasse. Tout au long des siècles, en toutes les civilisations, les plus sages des hommes ont appris aux enfants à lever leur tête, à reconnaître les étoiles, à les nommer et même à s'en amuser en devinant sur le ciel tendu de noir les constellations les plus étonnantes, notamment celles dites de Ptolémée avec ses 36 figures décelables dans le ciel, l'aigle, la baleine, la couronne, la petite ours, la grande ours. Qui enfant n'a pas cherché dans le firmament, sous le doigt de son père et de sa mère, cet imaginaire dessiné par Dieu pour dire aux hommes le mystère qui les enveloppe ? Tiens, regarde, regarde, contemple, regarde comme c'est beau. Mais malheureusement, mes frères, notre drame à nous, venons-en à nous, c'est que nous ne levons plus les yeux vers le ciel, mais vers le tiroir-caisse, vers les soucis de la vie, vers le poste à atteindre, vers la voiture à acheter. Et c'est pourquoi la première chose que le Seigneur nous demande à travers la fête de l'Épiphanie, c'est de lever les yeux vers le ciel. Réjouissez-vous, nous dit-il, de cette création qui vous étreint en vous dépassant. Mes frères, même au XVIIIe siècle, au grand siècle des Lumières, malgré les idées nouvelles qui voulaient renverser et mettre à mort l'âme religieuse, l'homme ouvrait sa fenêtre le matin et en voyant le soleil se lever, les oiseaux bruissaient de vie, les arbres s'élevaient dans le ciel, il s'émerveillait. Et même dans le vide, s'il ne croyait plus en Dieu, il disait « merci ». Je pense ici au mot fabuleux de Frédéric Ozanam, le fondateur des conférences Saint-Vincent de Paul. Il disait, écoutez bien mes frères, vous allez voir comme c'est beau et comme c'est vrai surtout. L'homme ne saurait apercevoir l'ordre qui règne dans la création sans éprouver quelque chose de la joie d'un fils qui retrouverait la trace de son père. C'est pas beau ça mes frères, mais c'est divin. Cependant, de nos jours, ils sont rares, ceux qui, ne serait-ce qu'une seule fois par an, remercient pour le soleil qui se lève en s'émerveillant de ce miracle quotidien. Bon, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, au lieu d'ouvrir la fenêtre, on ouvre sa télé, n'est-ce pas ? La misère, les conflits, le drame, tout cela ne vient pas de Dieu, mais est infligé par l'homme à l'homme. Il faut le dire, nous sommes souvent, nous les humains, les orchestrateurs de la symphonie de notre propre malheur. C'est nous qui, de toutes pièces, créons en grande partie le mal par notre égoïsme indécrottable et la recherche de nos intérêts particuliers. Vraiment, mes frères, les mages nous donnent un bon conseil. Regardons les étoiles, c'est préférable. Réapprenons à vivre en contemplant la feuille d'un arbre, le duvet d'un oiseau, la fragilité d'un pétale de coquelicot. Soyons des émerveillés devant la création. Une seule étoile comme le soleil, avec son rythme régulier, prouve l'existence actuelle de Dieu. Et un seul sourire d'enfant, frais comme une rose, le manifeste. Mais revenons à l'étoile du jour. Il a suffi qu'elle brille en apparaissant au-dessus des toits de Bethléem pour subjuguer les mages, ces hommes de science, ces passionnés de vérité, et pour les jeter sur la route poudreuse de l'effort. Nous aussi, mes frères, et c'est là que je veux en venir ce matin, en nos existences personnelles, si l'on sait regarder de près et avec attention, on s'aperçoit qu'il y a eu des étoiles qui nous ont fait face et qu'il y en a encore qui surgissent pour éclairer notre propre route. Des étoiles, mes frères, oui, à chacun la sienne, et que personne ne se jalouse. Et pour commencer, l'étoile de la vie que nous avons tous reçue avec le pouvoir de respirer, de vivre, de parler, de chanter même faux, mais de chanter tout de même. Et sur cette vie que nous avons reçue sans rien demander, est venue se greffer l'étoile du baptême, qui nous permet d'être apparentés à la très sainte Trinité et de devenir pas moins que les enfants directs de Dieu. Cette étoile du baptême, mes frères, beaucoup s'en moquent, n'en voient plus la valeur, et pourtant elle scintille de mille feux dans le firmament de l'âme. Tant pis, non, pas tant pis, dommage pour ceux qui ne considèrent plus le baptême comme la bonne étoile de leur vie, la grâce des grâces, la source de notre divinisation. Et puis il y a eu pour beaucoup l'étoile d'une bonne famille, modeste ou riche, qu'importe, mais avec de l'amour et une bonne éducation à la clé, avec ses insistances sur la droiture, l'honnêteté, la bonté. Et si certains d'entre nous n'ont pas eu cette chance, il y a eu une autre étoile qui s'est sans doute levée à l'horizon. Un ami qui s'est pointé, une amie, un prêtre, que sais-je, quelqu'un qui est arrivé pour nous sortir du trou noir. Et si ce ne fut pas quelqu'un, ce fut une situation nouvelle, des circonstances autres, un recommencement qui ont aidé un jour à redresser la barre. Et l'étoile de l'amour, mes frères, ne brille-t-elle pas en bien des vies, pour ne pas dire pratiquement en toutes? La rencontre de l'être aimé, surtout quand on l'a bien choisi, parce que l'étoile de l'intelligence a brillé au-dessus de la passion amoureuse et vous a fait faire le bon choix, n'a-t-elle pas bouleversé votre vie, cette étoile, en la transformant en bonheur? Mes frères, une étoile est toujours là pour nous soutenir, nous aider, nous éclairer, nous conduire. Et jusque dans la souffrance, dans le deuil, dans les larmes, elle est là, cette étoile, au creux de notre douleur, et elle nous dit par sa seule présence au fond de l'âme que tout n'est pas perdu, qu'il reste encore Dieu notre Père pour nous consoler. Elle sera là encore, mes frères, cette étoile, à l'heure de notre départ du monde, quand la mort sera sur le point de nous ravir. Elle brillera, vous verrez, pour guider nos premiers pas dans l'éternité. C'est dire que tout au long de notre vie, mes frères, et jusqu'à notre dernier souffle, derrière l'étoile surgissant au bon moment sur notre chemin, c'est Dieu qui se cache et qui respire, et c'est lui qui, discrètement, de manière à ne pas gêner l'exercice de notre liberté, nous conduit chaque jour jusqu'à lui. Croyons par-dessus tout, mes frères, en notre Père qui est Dieu. C'est lui notre étoile, notre soleil. Il nous guide de sa lumière et de sa chaleur bienfaisante. Mais, il faut le préciser, il nous guide à sa façon, à la façon divine que nous avons bien du mal à comprendre. Tenez par exemple les mages, s'ils entrent à Jérusalem, s'ils vont se présenter devant Hérode, c'est parce que l'étoile soudainement a disparu. Dieu veut par là éprouver, fortifier leur foi et leur amour. Que voulez-vous, en se cachant de la sorte, le désir de le trouver grandit dans leur cœur. C'est bien connu, ce que l'on n'obtient pas, ce que l'on cherche, ce que l'on ne réussit pas à atteindre, contribue à mobiliser nos énergies et à les concentrer en vue du but à atteindre. Parfois aussi, mes frères, en nos vies, Dieu semble se cacher. Il ne nous fait pas, comme on dit, la vie belle. Pourquoi ? Eh bien, peut-être parce que, sous une protection excessive, il y a le risque de s'endormir sur nos lauriers. Et puis parce que, quand tout est facile, on finit par perdre son âme. Mes frères, quand l'étoile est présente, ou quand elle se cache, souvenez-vous que c'est toujours Dieu qui parle, et qu'il faut savoir écouter. Ainsi, à la demande d'Hérode, les scribes vont alors révéler aux mages la grande prophétie d'Isaïe, selon laquelle le Messie sortirait de Bethléem. Et cette indication suffira pour les remettre en route, car il ne faut jamais oublier que nous disposons de deux boussoles pour nous diriger dans notre vie. Deux. La boussole des circonstances, rencontres et événements qui poussent notre vie et qui l'orientent. Et la boussole de la Sainte Écriture, qui par ses révélations et ses prophéties, de la Genèse à l'Apocalypse, balise la route de l'homme. Mes frères, alors qu'aujourd'hui nous nageons en plein surnaturel, guidés jusqu'à la crèche par une étoile mystérieuse et par la prophétie d'Isaïe, permettez-moi de vous redire que nous devons impérativement accueillir les événements qui traversent notre vie. Il faut faire très attention aux rencontres que l'on fait. Ces rencontres sont porteuses de messages de la part de Dieu. Et il est bon aussi de nous tenir à la lecture assidue du Saint-Évangile. Il est bon d'ailleurs, mes frères, quand on est perdu, quand on ne sait plus ce qu'on doit faire, de prendre l'Évangile entre les mains et, après avoir prié l'Esprit-Saint, de l'ouvrir au hasard de Dieu et de lire le passage qu'il fait tomber sous nos yeux. Cette pratique médiévale, mes frères, chère au cœur de saint François d'Assise, vous comblera de clarté. C'est un moyen qu'il ne faut pas utiliser tous les jours, mais seulement quand la lumière manque vraiment. En tout cas, aujourd'hui, la chose est indéniable. C'est parce que les mages ont levé les yeux vers le ciel et c'est parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu qu'ils sont arrivés à bon port, sous la voûte étoilée, près du seul véritable Dieu qui les attendait avec impatience, ses petits bras tendus pour serrer toute l'humanité au creux de sa tendresse. Mes frères, comme Gaspard, Melchior et Balthazar, vivons la tête dans le ciel, l'intelligence dans les saintes Écritures et le cœur dans le Christ. Amen.